Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, tous les jours du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est bien sûr à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Comment allez-vous Jimmy en ce lundi?
Bonjour Mélanie, ça va très bien, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien on en est ravis, allez dans notre grand dossier du jour.
Tout ça pour ça.
Ouais, c'est vrai, c'était vrai, un peu plat finalement. Allez bon, on y va, on est en bonne santé, tout va bien. Dans notre grand dossier du jour, on va parler de recherche de sens face à cette crise que nous subissons tous depuis un an. Nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir le besoin de revenir à la base, à ce qui compte vraiment pour nous et pour nos proches. Et justement, pour cela, nous pourrions nous appuyer sur nos intelligences multiples. Et oui, vous savez quoi? On en a tous 10 d'intelligence, Jimmy, même vous. C'est incroyable.
Hein, oh, elles sont bien cachées, les miennes.
Voilà, et on vient tous au monde avec. C'est donc dans cette voie que nous allons explorer le sujet avec Christophe Bourgois. Il est psychopraticien et spécialiste du comportement. Ensuite, comme tous les lundis, nous retrouverons Benjamin Lévesque pour sa chronique beauté. Aujourd'hui, il nous parlera de chute de cheveux, comment la prévenir et surtout comment la traiter efficacement, si c'est possible, bien sûr. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une femme qui se pose quelques questions sur sa vie sexuelle après 25 ans de vie commune avec son mari.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou même celles que vous nous envoyez via les réseaux sociaux comme celle-ci. C'est Isabelle qui nous a écrit la chose suivante, je vous la lis. Ma fille de 4 ans a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut plus se laver les mains en ce moment et je ne sais pas si à son âge ça sert à quelque chose de lui expliquer la transmission du virus et puis surtout je ne saurais pas comment lui expliquer. Avez-vous des idées? Alors pour vous répondre très clairement, Isabelle, nous avons interrogé pour vous le pédiatre Arnaud Fersdorf. Il a pour vous d'ailleurs une petite astuce, écoutez bien.
Dans cette période de Covid, où on essaye d'apprendre aux enfants ce qui se passe, on leur parle de virus, mais pour eux c'est un petit peu compliqué de le comprendre. Et les tout petits enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut leur montrer ce que c'est qu'un virus. Alors évidemment on ne le voit pas, mais on va prendre un exemple. On va mettre dans une bassine d'eau des petites paillettes, toutes petites, un peu brillantes, et on va demander à l'enfant de mettre ses mains dans cette eau dans laquelle il y a les paillettes qui sont disséminées. Et on lui dit, tu vois, tu mets les mains dedans, maintenant tu ressors les mains et regarde ce que tu as sur tes mains. Et il va voir sur ses mains un certain nombre de paillettes qui se sont collées. Et on va dire, tu vois, le virus, c'est pareil. Sauf que le virus, on ne le voit pas. Il est encore plus petit. Et c'est comme ça qu'on le transmet. Et maintenant, tu vas me serrer la main. Et l'adulte tend la main à l'enfant. L'enfant serre la main. Et après, l'adulte montre sa propre main en disant, tu vois, il y a des paillettes que tu m'as transmises. C'est passé sur ma main. Et si maintenant je me gratte le nez, je vais en avoir dans le nez. Donc il faut faire très attention. Le virus, c'est pareil. Il faut bien se laver les mains. Il faut faire attention à ne pas se serrer les mains n'importe comment.
Voilà, c'était le docteur Arnaud Fersdorf au micro de Barbara Silvera Sonigo Jimmy. Moi, j'aime bien la médecine avec des paillettes en plus, non?
C'est une
bonne, bonne manière d'expliquer ça aux enfants.
Et c'est très pédago. Et même moi, j'ai compris maintenant comment ça marche le virus.
Très bien. Alors, Jimmy, puisque vous êtes bien à l'écoute et que vous comprenez tout, on a une deuxième question pour vous. C'est celle de Brigitte de Bordeaux.
Je m'interroge une nouvelle fois sur le vaccin, en l'occurrence Pfizer, que j'ai eu une fois. Deuxième injection prévue fin avril. Et vous avez parlé l'autre jour d'une troisième vaccination qui serait possible. Je sais qu'en général, les vaccins se font un vaccin, trois vaccins à un mois d'intervalle, classiquement, et ensuite rappel. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Pfizer ou du vaccin Covid? Est-ce que je vais devoir faire une troisième injection?
Alors Jimmy, effectivement, pour le vaccin Pfizer, il faudra probablement une troisième dose. Pourquoi et combien de temps après finalement la deuxième dose?
En fait, j'en sais rien. Honnêtement, c'est une question qu'on pose tous les jours en centre de vaccination. Alors docteur, cette troisième dose, j'ai envie de vous dire, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes incapables de prédire l'évolution du virus d'ici un ou deux mois. Alors savoir ce qu'on va devoir faire à l'automne prochain, je pense que c'est un peu présomptueux, même si on peut imaginer qu'avec le temps, nous perdions petit à petit la protection conférée par la vaccination et qu'il faudra certainement à l'automne ou à l'hiver prochain faire une piqûre de rappel, surtout qu'on sait que certaines personnes un peu plus fragiles, un peu âgées, un peu immunodéprimées vont avoir une moins bonne réponse vaccinale à la vaccination et très certainement qu'il faudra une autre dose, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est dans un second temps. Ayons d'abord une, puis deux doses, ça nous permettra de combattre l'épidémie Et puis on verra à l'automne prochain.
Alors là, on parle donc d'une troisième éventuelle dose, mais peut-être après, certains disent même que ça deviendra une vaccination annuelle, finalement, comme celle de la grippe. Là non plus, on ne le sait pas encore, mais c'est possible.
C'est une des hypothèses. Alors pourquoi on se vaccine aussi chaque année au niveau de la grippe? C'est car on a une perte de l'immunité progressivement, mais en plus de ça, la grippe, elle mute, elle change. Et donc l'enjeu
comme
actuel,
le COVID, hein, finalement,
exactement, ouais. C'est de peu à peu avoir une pression de sélection sur le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va être 60% de la population à se faire vacciner, eh bien il y en a 40% qui va essayer justement de survivre et d'essayer de se développer. Et à ce moment-là, le virus peut muter parce qu'il va chercher à échapper à l'immunité. C'est ce qui s'est passé notamment au Brésil, alors qu'une majeure partie de la population avait attrapé le virus, notamment à Manaus. Eh bien, le virus a su s'adapter et a créé des variants. Et il est possible que chaque année, nous devions nous faire vacciner avec un petit rappel. Mais encore une fois, on est incapable de savoir ce qui se passe la semaine prochaine. Alors, dans un an ou deux...
D'accord. Et là, on disait pour le vaccin éventuellement Pfizer, puisqu'il y a eu des, effectivement, du point de vue commercial, en tout cas des annonces un petit peu dans ce sens, en disant qu'il faudra probablement une troisième dose et peut-être une chaque année. Est-ce que pour les autres vaccins, le Moderna et puis les autres, on peut envisager la même chose?
On peut imaginer la même chose pour le Moderna. Et d'ailleurs, en centre de vaccination,
c'est le jumeau. Hein,
c'est
Pfizer,
le jumeau.
Hein,
et les patients rechignent à se faire vacciner avec du Moderna. Lorsque je leur annonce qu'il va y avoir du Moderna, ah non, je veux du Pfizer. Alors, Moderna, ce n'est pas AstraZeneca. Et de toute façon, mieux vaut AstraZeneca en ce moment que des vacances en réanimation. Mais j'ai envie de vous dire que le Moderna est aussi efficace que le Pfizer et certainement qu'on devra, s'il y a une troisième dose, faire le même procédé avec les autres vaccins.
14 millions de Français, je crois, à peu près, hein, au dernier chiffre, en tout cas, ont reçu au moins une dose. Est-ce qu'on peut dire que ça commence à être satisfaisant ou est-ce qu'on est encore loin par rapport à d'autres pays?
Ça avance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Israël, avec 60% de la population vaccinée, en levant les mesures de restriction, n'ont pas de flambée épidémique, ils n'ont plus de morts du coronavirus, c'est extraordinaire, et qu'à partir de 40%, ils ont commencé à avoir un impact significatif sur la cinétique de l'épidémie. Ça veut dire que d'ici un mois, on espère qu'avec une couverture vaccinale plus importante, eh bien, nous puissions revivre un petit peu plus et libérer les hôpitaux.
Allez, l'espoir est là. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Christophe Bourgois, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bon, vous êtes connu dans cette émission, je crois que c'est la troisième fois déjà qu'on vous reçoit.
Je suis très
vous
heureux
êtes
de venir.
Psychopraticien, spécialiste du comportement humain et des intelligences multiples. D'ailleurs, vous êtes l'auteur du livre dont on avait déjà parlé une fois, mais il y a tellement à dire qu'on vous a réinvité. Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie, qui est donc paru aux éditions First. Alors Christophe Bourgois, vous vous présentez comme révélateur d'intelligence. Je vous avoue que la première fois que vous étiez venu, ça m'avait déjà surpris comme titre, mais vous allez nous réexpliquer ce que c'est. Et finalement, est-ce qu'avec les technologies actuelles, on pourrait visualiser ces intelligences, ces 10 intelligences que vous avez répertoriées, vous ?
Alors, j'ai créé effectivement un lab qui s'appelle l'Intelligence Factory. Je coach des gens au travers de ces intelligences, entre autres. Et oui, il y a eu d'énormes progrès dans l'imagerie médicale. C'est déjà un chercheur, la paternité de tout ça revient encore une fois à Howard Gardner, qui était professeur à Harvard. Donc lui, il avait déjà, sur beaucoup de fonctionnements, déjà les débuts de l'imagerie qu'il y avait. Et ça a été confirmé. Alors, si vous voulez, ce sont des aptitudes. C'est avant, on pensait hémisphère droit, hémisphère gauche. Là, on est en train de deviner qu'il y a de plus en plus d'influence dans le cortex préfrontal. Mais quand, paradoxalement, quand j'ai été à l'Institut du cerveau et de la moelle, qui est un truc génial, qui a été fondé par Jean Todt et le professeur Saillant, que j'ai interviewé d'ailleurs dans le livre, en fait, on ne sait pas encore grand-chose sur le cerveau. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient au monde avec tout un tas d'aptitudes, notamment, je sais qu'on veut en parler, l'aptitude musicale. Ben, lorsqu'on était Homo sapiens sapiens, l'écoute était primordiale par rapport au regard. Et on l'a perdu, ça. On est maintenant dans une société du regard. Alors que le son, l'écoute, ça crée tout. Donc,
et on est content en radio d'entendre ça, hein, parce que si on nous écoute...
Bien sûr.
Mais on va commencer avec quelque chose qui paraît moins intuitif, c'est l'intelligence logico-mathématique. À quoi ça nous sert cette intelligence? Parce qu'on explique que résoudre le cosinus, le sinus et les problèmes mathématiques...
Moi, je l'ai perdu celle-là, je crois.
Oui, dans les, tous les jours...
Jimmy, ça sert à faire des ingénieurs à l'appel. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e, début du 20e, début de l'industrialisation, il faut des écoles d'ingénieurs pour fabriquer des bagnoles, des autos, etc., etc. Donc, on sacralise Polytechnique, Centrale Paris, etc., etc. On sacralise une forme de monoculture à l'école. Donc, tu es bon en maths ou tu es un naze, ou tu es bon éventuellement en littéraire ou tu es un naze. Et tout le reste, tout ce qui fait le sel de la vie, tout ce qui fait un être humain, c'est-à-dire toutes ces autres intelligences, elles ne sont pas qualifiées. Elles ne sont même pas quantifiées, elles ne sont pas qualifiées. Donc on a des gens qui sont des génies, Donc tout de suite, oh là là, il calcule de tête les chiffres et les lettres. Rappelez-vous, le mec qui est calculé de tête 472,5 multiplié par 2818. Moi, j'étais là, en disant, mais c'est pas possible. Et oui, j'avais envie de rentrer dans son cerveau, mec, pour voir comment ça fonctionnait. Mais ça se trouve, c'était un mec hyper pas sympa, ou qui savait rien faire d'autre, qui ne savait pas faire deux œufs sur le plat. Donc on a mis les gens dans des cases et ça devient extrêmement difficile d'en sortir, malheureusement.
Alors que vous dites que l'intelligence logico-mathématique, même les sportifs font des maths ?
Mais bien sûr, puisque vous prenez un type que j'aime beaucoup, comme Santoro, il était plus petit, machin, etc. Lui, il savait, il se disait, si je mets la balle là, l'autre, il a 67,5% de chance de me faire un passing comme ça, ou etc. Oui, les maths, ça sert énormément. Et je suis affairé de voir, parce que j'aime beaucoup, l'un de mes amis s'appelle Édouard Cissé, c'est un très, très grand footballeur, etc. Quand je lui dis, Édouard, ça fait combien de la taille d'un but ? Il est incapable de le dire. C'est-à-dire, les mecs, ils jouent en Ligue 1, ils gagnent des millions de dollars et ils ne connaissent pas la taille d'un but. Ouais. Ben oui, ça sert. Par exemple, même l'effet d'un ballon dans l'air. Pourquoi est-ce qu'une balle liftée, elle retombe ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, le joueur de tennis ? Mais tout est là.
Et justement, comment est-ce qu'on fait pour essayer de la développer au quotidien, cette intelligence logico-mathématique, si on ne veut pas retourner sur les bancs de l'école ?
Eh bien, il faut faire comme vous venez de le faire, Jimmy, de dire que ça suffit que ça appartienne à des ingénieurs et à des grosses têtes. Tout le monde, moi, mon charcutier, je peux vous dire, quand il calcule bien, hein, c'est au gramme près, la règle de 3, quand vous faites la cuisine, si vous voulez réussir une pâte sablée, il ne faut pas déconner sur
le poids du beurre, en fait, c'est ça. S'entraîner.
Mais c'est tout simple. C'est simplement s'efforcer à réfléchir, de s'efforcer à regarder des vraies émissions comme celle-ci sur Europe 1 pour réfléchir et pas des trucs où on est un lapin pris dans les phares d'une bagnole.
Christophe Bourgois, on va parler d'une autre intelligence, celle rythmo-musicale, on y vient.
J'adore.
Et vous écrivez dans votre livre que notre premier instrument, c'est notre voix, on est ravis d'entendre ça avec Jimmy. Vous dites qu'il faut même accorder sa voix. Comment on peut faire ça ?
Alors, je travaille beaucoup avec un confrère d'HEC qui s'appelle Patrick Grang, mais la voix, c'est l'âme dans les deux sens. C'est l'âme, L'AME, et c'est une lame, c'est-à-dire que ça traverse la personne. Quand un coaché vient me voir et parle comme ça en disant « Bonjour Christophe, j'ai entendu parler de vous pour être coaché », dès que la voix est bloquée au niveau du cou, grosso modo, c'est presque à 99% vrai, il y a eu un problème émotionnel à l'âge de 7-8 ans. Et donc, il faut faire redescendre ces émotions dans le corps. Toutes les émotions sont dans le corps. Et l'une des astuces, c'est de chanter. C'est de faire des vocalises, c'est d'attaquer les phrases. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être le fâcheux, toujours assassiné ? C'est d'attaquer les phrases comme ça, parce que le souffle descend. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire du théâtre, il faut faire...
Jimmy est très impressionné, si vous voulez.
Il faut faire des concours d'élèves. Et je vais vous dire, mais attendez, parce que c'est vrai que c'est incroyable, mais vous aussi, vous avez développé cette intelligence, et je crois que justement, vous nous avez apporté votre saxophone pour nous faire une petite démonstration. Alors attention, on vous écoute, il ne faut pas se planter, hein, parce qu'après avoir vendu... Vos talents.
Bah quand on arrive avec un saxo dans un studio,
il faut que ce soit.
On va écouter votre intelligence musicale.
Bah, si je monte l'exemple, il faut que je monte l'exemple, si vous voulez. Donc, à un moment donné, il a fallu que j'apprenne et que je fasse effectivement un peu de bruit.
Alors, vous êtes en train de vous installer avec votre saxophone, on y va. Très bien. Mais alors ça, c'est donc vous avez commencé ça à quel âge ?
Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. J'ai commencé il y a 10 ans et je prends toujours des cours. Si vous voulez, l'intérêt de ces intelligences et de l'intelligence du rythme, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Mais je voudrais surtout raconter une histoire aujourd'hui parce qu'elle est essentielle, elle est effectivement dans le livre. C'est tout ce qui s'est passé au Venezuela sous l'influence d'un type qui s'appelle Abreu. C'était un économiste dans les années 70 et qui a été un jour dans un quartier très difficile au Venezuela. Bon, là-bas, c'est la principauté de Monaco de la drogue. Hein. Il y en a partout. Et il a commencé à dire aux gosses, si tu viens jouer d'un instrument de musique chez moi, je te donnerai un repas. Et au fur et à mesure, il a formé 600 000 enfants. Et il a formé les plus grands orchestres mondiaux. Vous avez par exemple un très très grand chef d'orchestre qui s'appelle Dudamel, qui est très mondialement très connu, et tous les Vénézuéliens remportent tous les prix au niveau des concerts philharmoniques, etc. Donc ça les a sortis de tout ce qui était de ces cités avec des trafics de drogue, avec l'incivilité, etc. Parce que quand vous faites de la musique, vous êtes obligé de vous écouter vous, mais d'écouter l'autre. Et donc, je voudrais aussi parler, parce qu'en France, ça existe, et il y a une association qui s'appelle Tutti Passeurs d'Art, et je le dois à Jean-Claude de Calonne, c'est-à-dire que dans des mairies, ils vont dans des banlieues, ils offrent, ils ont besoin de dons pour ça, des instruments, les gosses viennent et changent totalement de vie. Je ne comprends même pas que le gouvernement français et notre ministère de la Culture ne comprennent pas ça, que la musique adoucit les mœurs.
On est tout à fait d'accord avec vous. Christophe Bourgois, restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous. C'est vous Christophe Bourgois, vous êtes psychopraticien, spécialiste du comportement humain et également l'auteur du livre Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie, qui est paru aux éditions First et donc dont on parle cet après-midi. Alors Christophe, on va parler maintenant de l'intelligence verbolinguistique, c'est-à-dire le fait par exemple de s'exprimer de manière très éloquente, et c'est selon vous une intelligence qui est vraiment mise à mal dans nos sociétés actuelles. Pourquoi ?
En fait, d'abord pour les raisons que j'avais évoquées précédemment sur l'influence de l'intelligence logico-mathématique. On ne reconnaît pas assez, à part dans quelques écoles, bien évidemment, l'intelligence du verbe et du langage. D'ailleurs, on le voit bien, on parle très très mal les langues étrangères. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, chez les gens que je coach, dès qu'ils se mettent à l'écriture, ce ne sont plus les mêmes. Donc, tous les 15 jours, ils doivent m'écrire des poèmes ou des textes, etc. Tout le monde peut écrire, Mélanie. J'ai eu 4 au bac en français, 6 en philo, et j'ai écrit mon premier polar à l'âge de 40 ans, et j'ai eu le prix de Beaune. Je n'avais jamais écrit, donc tout le monde peut écrire. Si vous voulez, toutes ces intelligences, encore une fois, il suffit de se connecter. Il faut y aller un petit peu, il faut se mettre en avant, il faut sortir de sa zone de confort. Elle est très importante parce qu'en même temps, elle contient du rythme. Lorsque vous faites des phrases, elles ont un rythme. Le vocabulaire, c'est toujours intéressant parce que ça ramène à une forme de connaissance de soi, à une forme de curiosité. Donc c'est, pour moi, c'est par rapport à tout ce qui est texto, etc., c'est important qu'on ralentisse un peu ce mouvement qui va trop vite et qu'on revienne à des fondamentaux. Et encore une fois, c'est au fond de nous. Et c'est très français. On a des écrivains incroyables. Donc une partie de chacun d'entre nous dispose de cet héritage.
Et vous dites d'ailleurs à propos du langage que c'est un très bon moyen pour créer du lien. Et vous prenez l'exemple dans votre livre des conférences, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter justement une conférence en termes d'attention ? Est-ce que ça change quelque chose ?
Ah, ça change énormément de choses. Vous avez à peu près, en moyenne, je fais des conférences. Enfin, j'avais fait une conférence sur 2000 personnes, mais quand j'en fais dans des entreprises, d'abord les gens sont là, ils sont mobilisés, ils sont curieux. C'est un espace hors du temps. Ils savent qu'on ne va pas parler de boulot. Et je suis frappé quand même de la curiosité des gens. Non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Donc en fait, quand vous arrivez dans ces conférences-là, c'est ce qu'on appelle des expéditions apprenantes. J'en organise d'ailleurs chez moi aussi, je fais des dîners comme ça, ou en entreprise. Vous leur faites faire de la musique, vous leur faites faire des exercices.
Bon,
à
en
plusieurs.
Ce moment, les trucs collectifs, c'est non, pas trop autorisé, mais dès qu'on pourra, c'est très important, quoi, c'est ça.
Exactement, ça fédère une équipe.
Et en présentiel, hein, c'est ça qui est important, c'est pas pareil la visioconférence.
Non, hein. J'en ai fait quelques-unes, j'en fais la semaine prochaine, mais c'est vrai que c'est pas pareil, vous avez totalement raison.
Pour illustrer ce besoin de lien à travers la rencontre et l'échange, vous parlez du général Sully Barbe dans votre ouais. bouquin, spécialiste de cyberdéfense, et vous expliquez que l'armée est passée du tout mail au tout visioconférence, c'est ça ?
Exactement, voire même du tout contact. C'est-à-dire qu'on s'imagine un peu comme dans Star Wars, machin, qu'on a des armées qui vont avec des robots. Oui, il y a des drones, etc. Mais in fine, quelle est la conclusion du ministère des armées, en tout cas de l'armée de terre ? C'est de dire, mais rien ne vaut le terrain. Je reviens toujours à une histoire. J'ai travaillé un jour avec un légionnaire, un ex-légionnaire, et m'expliquait que la Légion, par rapport aux Américains, qui s'appellent les Marines, la Légion, elle, il y a à la fois des mecs qui parlent hébreu, des mecs qui parlent yougoslave, des serbes, etc. Et quand ils sont sur le terrain, ils sont copains avec tout le monde. Ils sont beaucoup plus forts que les Marines. Alors les Marines, eux, ils arrivent avec les drones. C'est comme dans Apocalypse, les hélicos, les machins. Donc il y a vraiment cette culture de savoir que sur le terrain, on peut se lier énormément avec les gens par rapport à ça.
On va passer ensuite à l'intelligence kinesthésique. Là, on va parler du coup des couturières, des chirurgiens, des bricoleurs, c'est ça ?
Alors, c'est entre autres, bien évidemment, l'intelligence kinesthésique, la kinesthésie des mains.
Ça, là, je crois que je ne l'ai pas.
voilà, si vous vous collez. Moi, j'avais plus de pièces de maquette dehors que dans la maquette. Donc, avec les doigts.
Moi, je n'ai jamais été très manuel. Hein, mais
par
bon.
Contre, les chirurgiens, ouais. Effectivement, tous ces gens-là. Mais c'est surtout Jimmy, l'intelligence du corps, on a fait une cartographie en Finlande, d'un cabinet qui s'appelle Aalto. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est incroyable. J'ai interviewé ces gens-là pour le livre. Et ils ont fait une cartographie des émotions et dans le corps. Donc quand vous êtes jaloux, où est-ce que ça se situe? Lorsque vous êtes heureux, où est-ce que ça se situe? Lorsque vous êtes dans le rejet, où est-ce que ça se situe? Tout est dans le corps. Toutes les émotions sont dans le corps, elles ne sont pas dans la tête.
Mais elles sont où alors? On a quelle émotion à quel endroit, par exemple? Ça dépend de chacun ou...
La jalousie, c'est au niveau du bassin.
D'accord.
Par exemple, au niveau des cuisses. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous transpirez, etc., c'est le corps qui s'exprime. Donc vous avez, c'est étonnant, cette carte que vous pouvez voir. Vraiment, elle est en couleur dans le livre, malheureusement, elle est en noir et blanc. Mais elle est géniale parce qu'elle montre exactement où se situent les émotions.
Et justement, en parlant d'émotions, est-ce que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, eh bien, ça peut continuer de créer du lien? Ou au contraire, ça va finalement nous isoler les uns des autres?
Alors, ça a été un chapitre que j'ai écrit qui a été compliqué à écrire. J'avais d'un côté, je l'aime beaucoup, Carlo D'Assaro, qui était l'ancien président de Google Europe. J'avais Blablacar, j'avais tous ces gens-là. Et je me suis dit, j'avais Facebook, et je me disais, mais notre Internet, là, ça crée du lien ou pas? Donc, effectivement, Blablacar, c'est le premier psy de France. Vous voyez pas, il n'y a pas de eye contact. Vous êtes là pendant 4 heures, donc vous racontez votre vie. Et souvent, le mec d'à côté dit « Ah ouais, non, tu devrais quitter ta femme » ou au contraire, tu devrais quitter ton
mec. Le mec qu'on n'a jamais vu de sa vie, mais tout d'un coup, lors d'un trajet comme ça.
Et même chose pour Uber. Ouais. Ils ont énormément agi pendant la pandémie. Ils ont aidé des personnes âgées, ils ont livré des choses.
Personnel soignant.
Mais globalement, plus vous allez être connecté sur Internet, et je parle donc de connectivité, de connexion, moins vous allez créer du lien. Donc Internet et tous ces réseaux, Facebook, c'est fake, LinkedIn, tous ces trucs-là, vous ne créez pas du lien. Vous pensez que vous êtes pote avec la planète entière, avec les 4 degrés et demi de séparation, vous pouvez être copain avec quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande, mais ça ne crée pas de lien.
Christophe Bourgois, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Christophe Bourgois. Je rappelle que vous êtes psychopraticien et spécialiste du comportement humain. Alors, on va démarrer cette troisième partie d'interview avec l'intelligence spatiale. Là, on imagine que c'est l'intelligence de Thomas Pesquet, des rambonneurs, des explorateurs. Il faut au moins un minimum avoir... J'ai l'impression que je n'ai aucune de toutes les intelligences dont on parle tout à l'heure. Mais j'imagine que la base, c'est le sens de l'orientation, non? Je ne sais pas.
Chaque fois que je vous vois, je vous trouve de plus en plus intelligent.
Ah, c'est gentil, mais bon, je sais pas laquelle j'ai sur les 10, mais pas la spatiale en tout cas.
Moi, Mélanie, ça fait 2 ans que je suis avec vous et.
J'ai du mal à voir aussi. Hein. Alors,
l'intelligence spatiale, c'est une intelligence qu'on a depuis très longtemps, c'est de se repérer dans l'espace. Alors, quand on sortait de notre grotte ou de notre camp, il fallait qu'on fasse gaffe lorsqu'on était Homo sapiens sapiens, à savoir se repérer. D'ailleurs, elle a commencé lorsque on est sorti des forêts équatoriales et qu'on a commencé à apercevoir l'horizon pour pouvoir se repérer. C'est l'intelligence des cuisiniers. L'intelligence des explorateurs, certains sportifs d'ailleurs, qui voient en 3D, des artistes, des peintres. C'est vraiment de tout du monde du bâtiment. C'est cette manière de se mouvoir dans l'espace, de repérer, d'arriver dans un appartement et dire « Waouh, mais moi j'ai pété une cloison là ».
Ah, mais alors je danse par exemple, même si je ne sais pas me servir d'un GPS, l'espace. Danser c'est déjà une manière d'avoir une intelligence spatiale.
Avec l'intelligence du rythme, exactement.
Bon, ça va, je l'ai celle-là, une.
Au moins une, on est sauvés. Alors vous l'avez dit, c'est aussi l'intelligence des artistes et on apprend même que fréquenter des lieux artistique diminuerait les dépressions.
Oui, c'est une étude anglaise qui le démontre. Effectivement, l'art apaise, au même titre que la musique. Encore une fois, c'est cette profondeur, parce que l'art, c'est quand même l'expression d'une âme. Vous êtes devant un tableau et consciemment ou inconsciemment, vous avez une réaction émotionnelle et ça apaise, au même titre que on en parlera, je crois pas aujourd'hui, mais de l'intelligence naturaliste. Rappelez-vous, quand on fait venir maintenant des chevaux dans des hôpitaux ou des dauphins pour soigner les gens, il y a une forme. C'est de cette nature-là, si vous voulez. L'art, ça apaise totalement. L'espace, ça, le beau, l'éthique du beau, l'éthique et le beau, c'est le syndrome de Venise.
Alors comment on fait ça là, en période de confinement, couvre-feu, tous les musées sont fermés, enfin, je veux dire, on le trouve où l'art là, en ce moment? Déjà, certes sur internet on peut trouver des galeries, des expositions en ligne, etc. Mais quels sont vos petits conseils pour développer cette intelligence artistique en ce moment?
Alors à minima déjà, vous vis-à-vis de vous-même, de faire de la visualisation, donc vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous mettez une musique et vous imaginez des endroits où vous avez été. Ça marche très bien pour tromper le cerveau. Moi, personnellement, j'ai regardé des émissions formidables à la télévision sur l'art, sur la peinture. J'ai revu le film sur Jackson Pollock, par exemple, et j'en ai profité pour m'intéresser sur
À minima, c'est déjà ce genre de choses.
Sur le dripping. Mais non, ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être à un moment donné, vous arrivez chez vous en disant, tiens, j'ai changé ma cuisine ou j'ai changé un meuble, je vais réaménager les choses.
Pour la rendre plus belle, comme vous dites, le beau, c'est ça.
Voilà, ouais. le Le beau, c'est quand même agréable. Ça peut être, à un moment donné, de simplement dessiner. Ça peut être de pouvoir se balader, de repérer l'architecture parisienne. C'est quand même incroyable. Moi, je ne sais pas si vous... Je marche énormément dans
ailleurs,
Paris
ou ailleurs. Il y a plein de villes en France où l'architecture est magnifique,
Toulouse,
bien
à Bordeaux,
sûr.
Ou à Lyon. Mmh. Et il y a des architectures de dingue. Ne serait-ce que ça. C'est ce ressenti du beau, de la chose bien équilibrée, bien installée. Le cosmos.
Alors, pour finir sur l'intelligence spatiale, vous avez une petite anecdote sur Steve Jobs qui montre que justement l'organisation spatiale, elle est primordiale, notamment pour favoriser les échanges et même la créativité.
Alors, il avait un directeur général qui s'appelle John Lasseter, et à un moment donné, ils ont fait Toy Story, donc, qui a énormément marché, donc ils ont les studios Pixar. Donc, il dit à son DG, tu vas me construire un bâtiment, parce que maintenant, ça envoie du bois, ça cartonne, etc. Donc, le DG, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Hollywood, et puis il voit que des bâtiments séparés. Il dit, bon, on va faire la même chose. Et Steve Jobs lui dit non. 10 fois, 1000 fois non, parce que je crois en la sérendipité. Donc, la sérendipité, c'est, vous réfléchissez à un sujet, puis vous croisez quelqu'un, vous ne pensiez pas voir ou qui vient, et hop, Eureka. Ou le fait d'échanger avec elle ou avec lui va vous donner une indication. Donc, il a créé un atrium central de telle manière à ce que tous les gens puissent se croiser fortuitement, pour la plupart des fois. Ben, c'est l'invention du post-it. Hein. Le mec, il se dit, putain, j'ai inventé un truc nul, ça se colle pas, machin. Puis il y a un commercial qui est passé en disant, par hasard, hein, il n'y a pas de hasard, mais ton truc, c'est génial. C'est ça, la sérendipité. C'est de concevoir des lieux où on peut se rencontrer sans le savoir et ça devient fécond.
Bon, on a hâte de pouvoir se rencontrer davantage encore dans ce monde. Hein, mais une autre intelligence dans votre livre dont vous parlez, c'est l'intelligence existentielle. Donc s'interroger, comme on fait beaucoup en ce moment, hein, sur le sens de la vie, notre rôle dans ce monde. Et pour cela, vous donnez un exemple très frappant, celui de Brigitte Lahaie. Racontez-nous, elle a vécu ça via le sexe et le porno.
Alors, si vous voulez, l'intelligence existentielle... Elle est fondamentale. Malraux disait que le 21e siècle serait spirituel ou pas, ou équivalent. Il n'a pas totalement dit ça, m'a dit Luc Ferry, mais c'était de cette nature-là. Et nous avons un chemin. Ce qui est très compliqué à expliquer aux gens que je coach, ou même globalement, c'est que ici, pour l'instant, vous êtes des formidables chroniqueurs sur Europe 1. Mais quel est votre chemin de vie ? Un chemin de vie, ça ne s'arrête pas au présent. Il faut vivre dans le présent, mais en même temps, vous êtes sur un chemin. Donc quand j'ai questionné Brigitte, en disant, ben voilà, cette femme a été la reine, une star mondiale du porno, blablabla, blablabla, qu'est-ce qui la meut ? C'est quoi son chemin de vie ? Et pour l'instant, on ne l'a pas eu, mais on ne l'a pas en tout cas arrêté, mais qu'est-ce qu'elle me confie au départ ? Elle me dit, mais Christophe, moi, je n'aime pas les corps blessés. Quand j'étais enfant, je recueillais des animaux, des oiseaux, des lapins blessés, etc. Et en fait, on voit en fait qu'elle a fait un parcours de vie. Ça, c'était une intuition de coach que je lui ai soumise et sur laquelle elle était d'accord. En fait, son parcours de vie, c'est quelque part mettre son corps en souffrance. Et en fait, elle, son chemin de vie pour l'instant, c'est comment est-ce que je peux dissocier totalement le mental, mon âme, de mon corps, ou au contraire, est-ce que je pousse ça jusqu'au bout pour comprendre le sens de ma vie ? Et donc, on a chacun d'entre nous, on est porteur d'une histoire existentielle. Vous, Mélanie, vous, Jimmy, nos auditeurs et auditrices. Et c'est ça qui est important de révéler. C'est pas de traverser cette planète en disant « Oh ouais, je suis cadre chez machin, tout va bien ». Non, c'est quoi le sens de votre vie ? Pourquoi t'es venu sur cette planète ? Et ça, quand vous avez compris ça, ça s'appelle le chemin, ça change.
On va terminer rapidement avec l'intelligence du temps et vous dites que le seul temps important est celui du présent. Et vous avez d'ailleurs l'histoire de ces deux couples de touristes pour l'illustrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Très rapidement, vous avez deux couples qui ne se connaissent pas, qui ont décidé d'aller aux Maldives.
Il y a un couple programme.
Il y a un couple
jusque-là, tout va bien.
Jusque-là, tout va bien. Il y a un couple pété de blé, donc eux, ils y vont en jet privé, ils y vont la même semaine. Ils ne se connaissent pas les deux couples. Mmh. Hein. Eux, ils arrivent, ils ont un riva qui vient les chercher, ils sont sur une île, ils ont un bungalow tout seul, il y a par hélicoptère, on leur livre le matin du caviar, c'est juste pendant une semaine.
Paradisiaque.
L'autre couple, moins d'argent, donc ils sont en classe poubelle sur AOM, enfin plus AOM, mais équivalent, ils arrivent, là ils prennent une espèce de vaporetto, ils sont 50, ils sont les derniers à être déposés sur l'île, là ils ont moins de pognon, donc il y a moins de caviar, moins de langoustes, mais c'est quand même pas mal, il y a le bungalow, il fait beau, etc. Au retour, au bout d'une semaine, les deux doivent rentrer à Paris. Le premier couple arrive avec son riva, ils arrivent à l'aéroport dans le jet privé. Putain, on a oublié les bagages dans notre truc. Première contrariété. Le pilote du jet privé dit, on va décoller avec une demi-heure de retard parce que ça secoue là-haut. Donc on va essayer de... Okay. Ils prennent l'avion, ça secoue. Ils arrivent à Roissy, enfin au Bourget. Là, grève des douaniers, c'est la fin des grèves des douaniers. Ils mettent 2 heures à sortir de l'aéroport. L'autre couple revient dans son truc un peu entassé, etc. Mais
sans problème.
Se prend la queue des dépressions, la fin de la grève, etc. Eh bien, vous prenez ces deux couples. Vous demandez, le premier va organiser un dîner avec leurs meilleurs amis. Le deuxième va organiser un dîner avec leurs meilleurs amis. Le premier couple dira, n'allez jamais aux Maldives. Le deuxième couple dira, allez aux Maldives. Pourquoi ? Parce que notre cerveau ne retient que les mauvaises nouvelles, que le temps perçu et pas le temps vécu. Il faut vivre le temps.
Très bien, bah écoutez, je crois que c'est une très belle conclusion. Un grand merci Christophe Bourgois d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie » paru aux éditions First. Merci encore Christophe.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, vous allez nous aider à avoir, enfin moi ça va, mais pour Jimmy, une crinière de rêve.
On en est loin. Ah oui, il y a du travail.
Allez, quand on commence à perdre ses cheveux, c'est bien souvent la panique, mais vous allez nous rassurer puisqu'en fait, bah, c'est normal déjà de perdre ses cheveux.
Bah oui, un cheveu va vivre en moyenne entre 3 et 7 ans. Donc forcément, quand il meurt, eh bien, il se détache du cuir chevelu et un petit bébé cheveu va par la suite apparaître. Donc fort heureusement, tous nos cheveux ne se renouvellent pas en même temps. Un exemple, Mélanie, rien qu'aujourd'hui, vous avez perdu une 50aine de cheveux et à 60 ans, vous aurez moitié moins de cheveux que lorsque vous aviez 15 ans. Très bonne nouvelle.
Prédiction capillaire, ça y est, c'est fait.
Et à part ce facteur temps, est-ce qu'il y aurait d'autres causes à la chute de cheveux ?
Ah oui, plusieurs facteurs comme la fatigue, le stress, une grossesse ou la ménopause, hein, parce que ça provoque un déséquilibre des hormones, mais aussi le changement de saison, un peu comme les animaux, on a un poil d'hiver et un poil d'été. Et comme le dit la dermatologue Laurence Netter, c'est dû principalement à la variation de luminosité.
Cette luminosité a un impact très important sur notre système hormonal et que les cheveux sont très sensibles aux hormones. Cette variation de luminosité a un impact sur la chute de cheveux. En plus, pendant l'été, la lumière booste le renouvellement cellulaire, donc les cheveux et les poils grandissent vite. Et à l'automne, quand le jour diminue, eh bien, on récupère un rythme normal de multiplication cellulaire et il y a plus de cheveux qui passent dans la phase télogène, qui est la phase de chute de cheveux.
Non, mais je vous rassure, c'est temporaire et ça repousse toujours après.
Bon, allez, au quotidien, Benjamin, est-ce qu'il y a des gestes à éviter pour ne pas perdre trop ses cheveux ?
Oui, ne pas abuser des colorations, mais aussi des laques et shampoings secs, hein, parce qu'ils sont composés d'alcool, et l'alcool, ça assèche et abîme le cuir chevelu. On évite aussi de faire des chignons extrêmement tirés vers l'arrière avec des tresses qui peuvent provoquer un début d'alopécie. Il y a aussi un lien entre tabac et chute de cheveux, donc on évite de fumer. Et puis, il faut soigner son assiette pour faire le plein d'oligo-éléments et de vitamines primordiaux pour des cheveux en pleine forme, comme l'explique le docteur Catherine Lacronière.
Avec le premier d'entre eux, le fer, car une carence en fer se traduit par une perte de cheveux quasi obligatoire. Un fer très présent et bien assimilable dans les viandes rouges, fer également présent, même s'il est moins bien assimilé dans les sources végétales comme les légumineuses. Le zinc est également un oligo-élément primordial pour la bonne santé du cheveu. Ce zinc, vous le trouverez dans l'huître et dans les produits de la mer en règle générale. Et les vitamines reines du cheveu, la vitamine B3 présente dans le thon, la B5 dans l'œuf, la B6 dans le hareng ou le lait et la B8 dans les œufs ou le poulet.
Bon, on va manger plein de poulet, mais si on a l'impression, Benjamin, de perdre ses cheveux, comment est-ce qu'on peut s'en assurer ?
Eh bien, vous pouvez d'abord pratiquer chez vous le test de traction. Alors vous, Jimmy, c'est compliqué, mais Mélanie peut le faire. Vous passez vos mains dans votre chevelure et si vous avez recueilli plus de 5 cheveux dans les mains à chaque passage, eh bien, c'est qu'il y a bel et bien un phénomène de chute. Mais pour se rendre compte de manière précise, on peut aussi se rendre dans des instituts capillaires afin de faire un test diagnostique du cuir chevelu. C'est ce que j'ai fait en me rendant à l'Institut Airfax à Paris, où j'ai rencontré Claire Brevard.
Bonjour Claire.
Bonjour Benjamin. Depuis combien de temps en fait vous perdez vos cheveux ?
Ça fait plusieurs mois mais ça vient, ça repart, c'est aléatoire en fait.
Là Benjamin, je vais vous poser la caméra sur le cuir chevelu. Vous avez bien beaucoup de cheveux.
Ah bah ça me rassure alors. Par rapport à une moyenne,
qu'est-ce... La norme, on va dire que c'est entre 140 et 190 cheveux au centimètre carré. Vous êtes à 199.
Ah oui, un champion là, dis donc.
Là, nous allons réaliser le prélèvement de sébum. C'est juste une languette que j'applique sur votre cuir chevelu. C'est du téflon et ça prélève uniquement le sébum.
Ah bah, ça fait même pas mal.
Vous avez quand même 100% de séboré avec un shampoing fait depuis moins de 24 heures. Donc, on peut considérer que votre cuir chevelu est extrêmement gras. On va pouvoir maintenant réaliser le shampoing spécifique. Et ensuite, on vous posera une lotion et on vous appliquera la luminothérapie capillaire.
Ok, je vous suis, je m'assois. Exactement. Et là, Claire, on va refaire un petit bilan après tout ça.
Regardez votre cuir chevelu.
Ah oui, il n'y a plus toutes ces taches violettes, grises de départ.
Votre cuir chevelu, il a été libéré de tous les excès de pellicule, de sébum.
Merci beaucoup, Claire.
Et parmi les soins, on retrouve aujourd'hui des lotions et sérums qui stimulent la repousse, à condition que le problème de fond soit réglé. En clair, si vous avez un déséquilibre hormonal, il faut d'abord le traiter et ensuite on pourra appliquer ces soins cosmétiques.
Bon, merci beaucoup Benjamin. Vous nous parlerez de ces taches violettes grises qu'il y avait sur votre crâne.
No comment.
Ça m'interpelle oui. Hein, pour un chroniqueur beauté. Merci
un
Benjamin.
Reporter de guerre, Benjamin.
Pour ce conseil beauté du lundi.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, avec à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et nous accueillons tout de suite pour cette dernière séquence de l'émission Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Martine. Elle a 51 ans. On l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie, et je vous envoie ce message car j'ai 50 ans, je suis en couple depuis plus de 24 ans et c'est compliqué sous la couette. Je n'ai jamais commencé les rapports sexuels avec mon ami parce que j'ai toujours peur de passer pour une provocatrice. Et en même temps, si je ne fais rien de son côté, il ne fait rien, il s'endort et c'est très embêtant pour moi. Alors, est-ce que je devrais prendre les devants d'après vous? Je vous remercie de votre réponse, bonne journée à vous.
Catherine, alors cette dame, elle semble pas à l'aise à l'idée de discuter de sexe avec son mari. Est-ce que c'est le problème là, finalement, c'est pas tellement le sexe, c'est la communication, hein, si je comprends bien.
Elle parle pas que de communication, c'est d'oser être responsable de son désir, d'exprimer son désir sans peur du jugement. Or, elle a déjà une idée préalable qui est qu'une femme qui est en désir est une provocatrice. Pour ne pas dire des mots plus vulgaires, et que donc elle s'en empêche en espérant que lui devine le désir qui pourrait être le sien et qu'il vienne à sa rencontre ou réveille la belle endormie. Sauf qu'elle n'est pas endormie, elle est vraiment toute bouillonnante en elle et en face d'elle, elle a quelqu'un. Alors la question est, est-ce que c'est quelqu'un qui est sans désir ou est-ce que c'est quelqu'un qui respecte les limites qui semblent être les siennes et qui du coup attend le rendez-vous, mais comme évidemment chacun attend le rendez-vous de l'autre, il ne se passe pas grand-chose, bien évidemment.
Et puis là, elle dit que ça fait 24 ans qu'ils sont en couple. Est-ce qu'on peut être gêné après autant de temps passé ensemble ?
C'est étonnant quand même, c'est vrai. Hein.
À propos de choses assez simples comme les rapports sexuels.
Vous dites ça aussi parce que vous appartenez à une génération qui parle de sexualité, ou en tout cas qui est dans un bain où le sujet de la sexualité, la sexualité de l'homme, de la femme, du couple, du désir féminin, ça fait partie de l'environnement audible aujourd'hui.
On parle de ma génération, celle de Mélanie.
Oui, c'est ça, bien sûr. On a 3 ans d'écart, évidemment, c'est très différent.
Voilà, c'est très très différent, mais c'est un homme, une femme. Enfin,
vous
n'avez
peut-être pas 25 ans que vous êtes en couple aussi. Ces choses changent peut-être avec le temps.
On pourrait dire qu'avec le temps.
Peut-être, non ?
On pourrait aussi avoir une liberté de parole avec le temps. Mais en réalité, on a du mal à changer nos positions parce que changer nos positions, c'est laisser penser qu'on s'est nourri ailleurs ou qu'on s'interroge en dehors de l'autre. Et souvent, les couples s'enferment dans leurs limites de départ, leur pudeur de départ. Et si pour une raison ou une autre, elle a l'idée qu'une femme, dans son expression sexuelle, n'est pas une femme digne de ce nom, c'est une femme de petite vertu, eh bien, finalement, elle n'y parvient pas. Et donc, elle attend d'être rejointe par quelqu'un qui a eu l'habitude de fonctionner comme
ça. C'est étrange, je trouve, quand même, ce genre de questions. 25 ans, je crois, ou 24 ans après le début d'une vie de couple, j'ai l'impression que c'est presque des questions qu'on se poserait au début, de ne pas savoir parler l'un avec l'autre. Là, ça veut dire que c'est un couple qui, forcément, n'a jamais parlé de ces sujets-là. Ou est-ce qu'on peut devenir, entre guillemets, plus timide ou plus gêné, l'âge avançant ?
Non, je pense que c'est plutôt. On a toujours été comme ça. Simplement, au prétexte de la jeunesse, on faisait d'autres choses et ça se faisait autrement et ça se faisait sur de l'impulsion, l'impulsion de se séduire, l'impulsion de faire des bébés, etc. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces bonnes raisons d'aller vers la sexualité. Donc, il faut trouver les vraies raisons de la sexualité, c'est-à-dire le désir et le désir pour soi, mais aussi le désir pour l'autre. Et que du coup, eh bien, les couples ont très peur de faire bouger leur relation en changeant les codes de leurs échanges. Ils ont très peur de tout ce qui pourrait déstabiliser quand les relations sont parfois un peu fragiles. On peut se prendre la mouche un petit peu sur tout. On peut se sentir agressé. Donc du coup, on n'ose pas aborder des sujets de fond. Et du coup, on parle plutôt des courses et du repas à venir plutôt que l'essentiel, en fait.
Mais imaginez si son mari se dit exactement la même chose. De son côté, il attend. Bah, en fait, c'est un cercle vicieux sans fin.
Et oui, vous avez des couples comme ça qui parlent pain beurre chocolat. Et le, tout ce qui est, tous les sujets dont la sexualité fait partie, mais c'est aussi les sujets de mort, les sujets de projet ou de reconsidérer sa vie, reconsidérer ses valeurs. Eh bien, ça, les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur de remettre en question, de remettre sur la table carrément la relation. Alors que c'est justement ce qui nourrit la relation. Du coup, on finit par parler des choses les plus basiques de notre petit quotidien et chemin faisant, on s'enferme et on s'endort.
Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Martine pour briser la glace, en tout cas comme ça, là, à l'instant T?
Bah, peut-être qu'elle dise tout simplement que c'est arrivé 1000 fois qu'elle ait eu du désir pour son mari.
Il en sera peut-être très content même.
Ce sera très flatteur pour lui parce qu'elle l'aime, parce qu'il lui plaît et parce qu'aussi il est celui avec lequel sa sensibilité érotique peut s'exprimer, mais qu'elle n'ose pas par peur de provocation. Peut-être que ça lui permettra de dire « mais pas du tout ma chérie ».
Peut-être qu'elle aura une très bonne surprise. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Esprit, es-tu là ?
Je suis sûr que Mélanie, vous y croyez. Hein. Oui, je le vois bien, je vois bien. Esprit, oui. Des férus de spiritisme aujourd'hui. Victor Hugo.
Victor Hugo, il
faisait tourner les tables. Oui. Camille Flammarion. Alors lui, il était scientifique, mais il y croyait dur comme fer. Hein. Oui. Et si je mange, je vais en enfer. Et vous, vous avez choisi qui ?
Stéphane, vous connaissez Led Zeppelin ?
Bien sûr, avec le meneur de Jimmy Page.
Jimmy Page, le guitariste du groupe. Bah, figurez-vous que c'était un grand occultiste. Il était absolument fasciné par l'occulte. Il a même acheté un manoir en Écosse, sur les rives du Loch Ness. Où il a vu des fantômes. Oui, Mélanie, trembler.
Et vous savez que Philippe Charlier va nous accompagner pendant toute l'émission. Et ça, c'est un événement, quand même.
Ouh, je tremble déjà, bien sûr. Je vais rester sur Europe 1 et vous aussi, je vous le conseille. Restez avec nous sur Europe 1.